Professeur Dejoux, bonjour.
Bonjour.
Professeur Dejoux, vous êtes professeur d'université, praticien hospitalier en odontologie. Vous êtes aussi en charge de la pédagogie à la faculté et vous êtes spécialisé dans les biomatériaux, je crois.
C'est cela, oui.
Professeur Dejoux, qu'est-ce qu'un biomatériau ?
Il existe une définition officielle du biomatériau. C'est un matériau non vivant, utilisé à des fins thérapeutiques et appelé à interagir avec les systèmes biologiques. En fait, c'est toute une série de matériaux qui sont utilisés en médecine ou en médecine vétérinaire aussi et qui permettent de ce qu'on appelle suppléer les fonctions défaillantes, un organe défaillant, un tissu défaillant. Le biomatériau est là et il a une place à côté de la greffe, souvent dans les mêmes types d'indications.
Professeur Dejoux, à quoi sert exactement un biomatériau en odontologie ?
Alors, les indications d'utilisation des biomatériaux en odontologie sont extrêmement vastes. Les odontologistes sont des très gros utilisateurs de biomatériaux, avec d'autres disciplines médicales, mais de très gros utilisateurs et de biomatériaux extrêmement divers. Les indications, bien, c'est ce que nous appelons l'odontologie restauratrice. On a une dent cariée, on soigne la carie, on enlève le tissu carié, il faut le remplacer. Bon, on va utiliser un biomatériau pour remplir la cavité de carie. On a une dent absente, on veut la remplacer, on va faire une prothèse. Et bien, là encore, on utilise des biomatériaux. On a des problèmes de déchaussement des dents, on peut traiter, on va utiliser parfois des matériaux de comblement osseux qui vont permettre de remplacer l'os qui a disparu. Enfin, il y a énormément d'applications de biomatériaux. Et puis il y a des biomatériaux qu'on utilise sans le savoir. Vous êtes porteur éventuellement de lentille cornéenne, ben, vous avez un biomatériau sur vous. Une aiguille d'injection anesthésique, c'est aussi un biomatériau. Les biomatériaux remplissent notre univers médical de façon extrêmement importante. Mais en odontologie, je vous ai dit quelques applications. Quand on va prendre une empreinte dans votre bouche pour faire une prothèse fixe ou amovible, eh bien on utilise un biomatériau. Voilà quelques exemples de biomatériaux odontologiques.
L'utilisation de ces biomatériaux remonte, je suppose, à très, très loin.
Alors, les biomatériaux, on en retrouve depuis la plus haute antiquité, puisqu'on a retrouvé sur les momies égyptiennes des prothèses dentaires. Alors, soit en bois, soit en métal, qui était souvent un métal précieux à l'époque. En bois, on peut se poser quelques questions sur la pérennité et l'hygiène, mais c'est comme ça. Donc, ça fait extrêmement longtemps. Mais le vrai développement des biomatériaux en médecine, en général, c'est le première moitié du XXe siècle. Surtout pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on sait que malheureusement, très souvent, enfin heureusement ou malheureusement, c'est souvent au cours des guerres que la médecine fait beaucoup de progrès. Et donc là, dans ce domaine-là, en particulier en orthopédie, mais très rapidement après en odontologie, sont nés les premiers alliages qui ont été utilisés. Et après, les premières résines qui ont été utilisées, les premiers polymères pour les prothèses vasculaires, par exemple, aussi, c'est dans les années 50. Et puis, bien sûr, il y a eu une grosse évolution autour des années 60, 70, 80. Et maintenant, on est dans une nouvelle ère de biomatériaux et qui correspond à ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire, c'est un domaine de la médecine dans lequel on ne va pas remplacer un tissu qui a été abîmé, on va essayer de faire en sorte qu'il se régénère. Alors, ça peut être divers tissus, il y a des choses qu'on sait déjà faire facilement, par exemple la peau, on sait faire de la peau pour les grands brûlés par exemple, de l'os, on sait aussi faire de l'os, mais il y a des objectifs beaucoup plus ambitieux. Dans le domaine dentaire, par exemple, l'objectif c'est de faire une dent, arriver à fabriquer une dent à partir de cellules qu'on appelle des cellules souches, arriver à reconstruire une dent et donc pouvoir, au lieu de remplacer une dent par une prothèse et par un biomatériau, ben de remplacer la dent par une dent qui aura été fabriquée pour le patient, avec des cellules du patient, donc sans phénomène de rejet. Le biomatériau dans cette discipline-là n'a qu'un rôle transitoire. Il va servir à un moment donné de modèle, de patron pour la forme du matériau, de lieu pour que les cellules se développent, se multiplient et sécrètent les tissus qu'elles sont censées sécréter. Donc il va avoir un rôle transitoire, mais extrêmement important, parce que sans lui, eh bien, la régénération ne pourra pas se produire.
Bon, j'ai peur de ne pas comprendre, pour le profane que je suis, vous reconstituez la dent à l'extérieur du patient ou dans sa bouche ?
Alors, on peut imaginer que la dent est entièrement reconstruite à l'intérieur du patient et ensuite greffée sur le patient dans un deuxième temps. On peut imaginer des techniques mixtes dans lesquelles on va commencer le processus de la fabrication de la dent à l'extérieur, on dit in vitro, et à un certain stade de l'évolution, on va l'implanter dans l'os du patient, et à ce moment-là, l'évolution continuera dans l'os du patient, et la dent se mettra sur l'arcade, comme n'importe quelle dent chez un enfant qui pousse et qui apparaît sur l'arcade. Les deux possibilités sont envisageables.
Ce sont des techniques qui verront le jour dans combien de temps ?
Il est difficile de donner des dates, c'est certainement plusieurs années, de nombreuses années, parfois peut-être plusieurs dizaines d'années, mais en tout cas, il existe d'ores et déjà des équipes dans le monde qui travaillent dans ce domaine-là, et non seulement des équipes de recherche institutionnelles de type universitaire ou autre, mais il y a même des sociétés privées en Angleterre et aux États-Unis qui se sont créées pour travailler là-dessus, ce qui veut dire qu'ils ont certainement des objectifs financiers et que donc ils pensent que c'est un projet qui n'est pas un projet trop lointain et trop fumeux. Donc c'est des travaux qui... Il y a déjà des dents qui ont été fabriquées de cette façon-là, par ingénierie tissulaire. Bien sûr, elles n'ont pas encore la forme idéale qu'on voudrait qu'elles aient, mais ça veut dire que déjà, on arrive à réaliser un certain nombre d'interactions tissulaires extrêmement complexes qui amènent la fabrication de la dent. On arrive à le faire en laboratoire, et donc on peut penser que peut-être dans 10-20 ans, ça sera quelque chose qui fera partie de la dentisterie normale.
Professeur Dejoux, j'ai entendu dire que la faculté d'odontologie, en partenariat avec une société, avait développé un matériau assez spécial.
Oui, alors c'est un matériau qui actuellement est au stade des essais cliniques pour évaluer ses performances dans le temps. C'est un matériau qu'on a développé comme alternative aux autres matériaux de restauration des dents cariées. Actuellement, un chirurgien-dentiste, lorsqu'un patient arrive et qu'il a une dent cariée qu'on doit soigner, a globalement deux gros matériaux, deux grandes familles de matériaux. D'une part, les amalgames, qu'on appelle communément les plombages, qui ont pour inconvénient de contenir des métaux, et en particulier le très controversé mercure. Alors, bien qu'aucune preuve de la toxicité des amalgames n'ait jamais pu être mise en évidence, c'est quand même une problématique qui est posée, surtout que actuellement le mercure, de façon générale, dans l'industrie ou ailleurs, a tendance à être éliminé petit à petit. Le deuxième matériau qui actuellement est très utilisé, ce sont ce qu'on appelle les résines composites. Ce sont ces matériaux qui ont la couleur de la dent, avec laquelle on a l'habitude de restaurer beaucoup de dents actuellement. Les amalgames posent le problème du mercure. Les résines composites sont des matériaux qui peuvent se dégrader, qui se dégradent dans la bouche et qui libèrent un certain nombre de molécules, de petites molécules qui peuvent être elles aussi toxiques et parfois qui provoquent des allergies. C'est pourquoi nous avons essayé de développer un matériau qui est biocompatible, c'est-à-dire qui se comporte extrêmement bien dans un système biologique sans l'agresser. Et ce matériau est un matériau entièrement minéral, donc composé uniquement de molécules et d'atomes qui sont très biocompatibles et donc ne pose pas de problème de compatibilité. Alors c'est un matériau qui est intéressant parce qu'il a des propriétés biologiques très surprenantes. On a réussi à mettre en évidence le fait qu'il permettait la cicatrisation de la pulpe lorsqu'il était au contact même de la pulpe, ce qu'on appelle généralement le nerf de la dent. Vous savez que quand on a une effraction du nerf de la dent, lorsque la carie atteint le nerf de la dent, c'est là que le patient a souvent très mal. Et généralement, ça se traduit par le fait qu'on enlève, on dépulpe la dent, ce qui peut, à long terme, qui est embêtant. Mais avec ce matériau-là, on peut mettre le matériau directement au contact de la pulpe et il va entraîner une cicatrisation de la pulpe, ce qui est un comportement assez exceptionnel parmi les biomatériaux qu'utilisent les odontologistes. C'est le seul qui, actuellement, a ces capacités-là, tout en présentant des propriétés mécaniques suffisantes pour l'utiliser comme matériau de restauration. Il existe d'autres matériaux biologiquement aussi performants, mais ils n'ont pas du tout les propriétés mécaniques qui permettent d'utiliser comme matériau de restauration, ce qui veut dire qu'on va être obligé de le protéger par d'autres matériaux, ce qui complique beaucoup la mise en œuvre et la thérapeutique à long terme. Ce matériau-là a ces propriétés-là, c'est assez exceptionnel. Pour l'instant, on a au sein des essais cliniques qui sont assez satisfaisants.
Professeur, est-ce que ce matériau a un nom et qui c'est qui le fabrique ?
Pour l'instant, il a un nom de recherche qui s'appelle le RD94 pour Recherche et Développement 94, et la société avec laquelle le partenariat a été établi dès le début du projet, c'est la société Septodont. La société Septodont, c'est une société familiale de taille mondiale dans le domaine dentaire, puisque c'est le premier producteur mondial d'anesthésiques locaux. Et c'est une société qui a accepté le challenge de nous aider au développement de ce matériau, ce qui est un certain challenge, parce que c'est un matériau tellement nouveau qui ne correspond pas vraiment au matériau que les dentistes ont l'habitude d'utiliser. Donc, il faut arriver à convaincre les dentistes de son intérêt, et ce sera le cas dès que les essais cliniques auront été concluants, et donc on va commercialiser ce produit.
C'est une société française ?
C'est une société totalement française et familiale.
Professeur Dejoux, en matière de collage et d'implants, qu'en est-il des biomatériaux ?
Alors, les biomatériaux, ces 20 dernières années, dans ces deux domaines-là, ont permis des avancées assez importantes en odontologie, et pas uniquement en odontologie, mais spécialement en odontologie. Dans le domaine du collage, sont apparus dans les années 80 et continuent à se développer des matériaux qu'on appelle des adhésifs. Ces adhésifs sont des matériaux qui permettent maintenant d'éviter de mutiler de façon importante les dents pour les soigner, ce qui était un peu contradictoire. Pour pouvoir soigner une dent, on devait commencer par la mutiler, ce qui n'était pas à long terme certainement extrêmement favorable. Maintenant, eh bien, on applique les techniques de collage qui sont appliquées dans le monde industriel depuis extrêmement longtemps. Dans le domaine dentaire, ça permet de faire des restaurations peu mutilantes. On appelle ça la dentisterie invasive au minimum. On appelle ça la révolution silencieuse de la dentisterie adhésive. Parce qu'en effet, ça constitue une révolution, et puis que ça n'a pas fait de grand bruit dans le monde entier. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement dans le perfectionnement des adhésifs afin d'avoir des adhésifs à la fois biocompatibles, donc qui soient tolérés très bien par l'organisme, et d'autre part, de plus en plus efficaces, de façon à pouvoir réaliser des restaurations peu mutilantes, de pouvoir remplacer les dents dans des conditions peu mutilantes. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est un domaine tout aussi important qui peut-être va révolutionner encore plus et a déjà révolutionné la dentisterie de façon plus profonde, c'est le domaine de l'implantologie. Le domaine de l'implantologie, là encore, a été rendu possible grâce à un biomatériau qui est le titane. Le titane, c'est un matériau, un métal qui a des propriétés biologiques assez exceptionnelles que n'ont pas la plupart des métaux ou alliages utilisés actuellement en orthopédie ou en dentisterie. Il est extrêmement biocompatible, il s'intègre très bien à l'os et il a permis de remplacer des dents, non pas par des prothèses amovibles ou fixes de type bridge, mais uniquement en mettant une racine artificielle dans l'os. Et ensuite, sur cette racine, eh bien, on construit une couronne comme on construisait une couronne sur une dent naturelle. Et ça a rendu de grands services, et ça va rendre de grands services, certainement aux patients qui sont édentés de façon importante, et en particulier les patients qui sont édentés totaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de dents du tout, parce que ces patients-là, il suffit de mettre deux implants dans la bouche, et à ce moment-là, on va réaliser une prothèse qui va non plus tenir comme ça, simplement parce qu'elle est bien adaptée, et on sait très bien que ces patients-là ne peuvent plus manger de sandwich, plus manger de pommes, que souvent la prothèse bouge dans leur bouche, qui est assez inconfortable. Eh bien, on peut leur fabriquer des prothèses qui ont une rétention parfaite, avec laquelle ils vont pouvoir avoir une vie sociale, ils vont pouvoir manger tout à fait normalement, et c'est vraiment un grand progrès. La limitation actuelle de l'implantologie, c'est le coût. Actuellement, un implant, c'est cher, une prothèse implant, c'est cher. Mais on peut penser qu'en développant les techniques et en diffusant cette technique de façon plus importante, ben, on va peut-être faire baisser les coûts. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer, puisque ça permettra à des personnes n'ayant pas des revenus extrêmement importants d'avoir accès à cette technique, qui est quand même une technique très remarquable. Dans les deux cas, collage et implantologie, on voit que c'est le développement de matériaux qui permettent quand même des évolutions plus ou moins importantes, plus ou moins profondes, mais toujours positive dans le domaine de l'odontologie.
Professeur Dejoux, je vous remercie beaucoup et je crois que les biomatériaux ont un bel avenir.
Oui, les biomatériaux ont encore un bel avenir et même s'ils sont amenés à évoluer, même s'ils vont changer de rôle, encore pendant de nombreuses années, de nombreuses dizaines d'années, les biomatériaux ont un bel avenir en odontologie mais dans la médecine en général, puisqu'ils sont encore en plein développement et que leurs utilisations sont de plus en plus nombreuses chaque jour.